Donc ouvre vos Bibles à l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 3. Les versets aujourd'hui, c'est les 17 au 19. On va commencer avec le 16 pour la lecture. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Et on va arrêter avec le verset 19. Colossiens chapitre 3 et le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'agrisse pas contre elle. Ce sera le texte pour ce matin. En fait, on va parler aujourd'hui du couple. Et c'est surtout ces deux versets qu'on vient de lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Dans les premiers chapitres de Colossiens, on a appris que Christ est tout. Christ est tout. Il est le Créateur. Il a tout fait. Toute gloire revient à lui. Et dans le verset de la semaine dernière, verset 16, qu'on vient de lire, on a l'instruction que la parole de Christ doit demeurer en nous. Le Christ et son Saint-Esprit doit affecter, en fait, toute partie de notre vie. Et ça, c'est dans le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quand il dit tout, par la suite, il va expliquer le tout. Et il doit donc parler du couple, il va parler de la vie de famille, la vie de foyer, il va parler de la vie du travail, la vie spirituelle, et à la fin du livre, il va parler de la vie de service chrétien. Donc c'est le tout. Et donc, tout le domaine là sont touchés par ces textes quand il entre maintenant tout de suite dans le couple. Alors, j'y vais aborder ces sujets à travers les prochaines quelques semaines. Aujourd'hui, c'est le couple. La semaine prochaine, c'est la famille. Et par la suite, c'est la famille, le foyer et le travail la semaine prochaine. Et on verra le reste petit à petit. On voyait en premier le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout, que ce soit nos actions ou nos paroles. Donc j'ai fait ce dessin-là, et au centre de notre vie doit être la parole de Christ. Okay? Et tout doit se régler vis-à-vis du Seigneur Jésus, que ce soit... Donc, c'est difficile de dire une seule personne là, donc que ce soit nos parents, nos enfants, le conjoint, la santé, le travail, les finances, les amis, la communion fraternelle. La Bible parle de toutes ces choses. Et donc, en tant que chrétien, on doit régler toutes ces choses sur la base de la parole de Christ. Tout ce que nous faisons, nous devons faire au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien. Qu'est-ce qu'on a place de faire quelque chose au nom du diable? Ou au nom d'autre chose? Hein? On fait tout au nom de Seigneur Jésus. Et quand Jésus est le centre de nos vies, à ce moment-là, nous pouvons arriver à remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie. Mais si je fais toute ma vie autour de moi, au lieu d'autour de Jésus, eh bien, il y a des choses qui vont arriver dans ma vie, je ne vais pas comprendre, je vais, ah, mais ce n'est pas possible, je vais être un peu rebelle et peut-être dégoûté et toutes les choses, parce que je n'avais pas bien réglé ma vie déjà. Ok, donc, Dieu veut qu'on règle notre vie autour de la parole de Christ qui doit demeurer en nous et avec le Saint-Esprit qui œuvre en nous parce qu'il demeure là déjà. Et on arrive à comprendre, malgré nous, les événements de la vie. On va regarder maintenant les versets 18 et 19 et je vais prendre du temps à parler du mariage et du couple. Versets 18 et 19, « Femmes, que chacun soit soumis à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » Donc, apprendre à comprendre premièrement, et on a déjà vu ça un petit peu l'autre semaine, c'est que on est tous soumis à des autorités. C'est pas ici, voilà, une chose spéciale pour les femmes, pour Dieu, que voilà, les hommes sont libres et les femmes sont des esclaves. C'est pas ça du tout. On est tous soumis à des autorités. Romains chapitre 13 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Bon, c'est pas la peine d'être soumis à une autorité inférieure. C'est pas normal quand les enfants gèrent la famille. C'est les parents qui gèrent la famille. Et les enfants doivent obéir aux autorités supérieures. Et les parents doivent obéir aux autorités supérieures, etc. Okay? Il y a toujours ces liens de hiérarchique d'autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, il y a des autorités qui existent. Il y a des autorités spirituelles. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des autorités spirituelles. Il y a des autorités ou des lois de la nature. On est soumis à ces choses-là. On n'arrive pas à voler tout seul. Il faut un avion ou un hélicoptère ou d'autres choses. Hein? Mais tout seul, on ne peut pas surmonter ces autorités. On est soumis. Des fois, malgré nous. Okay? Il y a des autorités parmi l'humanité. La famille, l'église, le gouvernement, le travail. Okay? Aujourd'hui, on va parler de couple, mais le couple, ça fait partie de la famille. Donc, j'ai un autre panneau que j'ai fait. Voilà. L'autorité dans la famille libre. Donc, on parle de la Bible. Je ne parle pas de la France dans le 21e siècle, mais quand on parle d'une famille dans le sens biblique, on parle déjà de la famille libre. On ne peut pas gérer correctement une famille si on est esclave. Hein, des esclaves, les patrons, des fois, disent, bah, toi, monsieur, tu vas, je te vends, et puis à la dame, je te vends là aussi, et donc le couple est cassé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une famille libre, c'était les esclaves. Okay? Et il y avait beaucoup d'esclaves à l'époque que la Bible était écrite. Okay? Donc, on parle de la famille libre. On parle d'une famille idéale où il y a un monsieur qui est papa et une dame qui est maman. Et il y a, donc, dans le foyer, il y a l'autorité principale, évidemment, sous Dieu, et l'homme. Et la famille se divise, donc, dans les autorités de la femme, l'autorité sur les ouvriers, et dans les questions de la société, ok? Ça, c'est le domaine de l'homme, sa femme, ses ouvriers et la société. Et la femme, elle est aussi, donc dans la Bible, elle est le despote écuménique. De la famille, de la famille, de le foyer, j'ai oublié le mot. Et donc c'est elle qui a l'autorité sur les enfants, les domestiques et les affaires de la maison. Donc, souvent, dans nos vies, on gère ça différemment. Et en fait, on fait tort à nos propres vies. Okay? Donc, par exemple, moi, je donne tout l'argent à ma femme et elle s'occupe de tout ça. Moi, je n'ai pas de mal à la tête. Mais je connais des hommes qui ils donnent les centimes exacts à leur femme. Ils disent, voilà, tu vas faire les courses et tu vas ramener tous les centimes. Et moi, je veux compter. Et je vais prendre les ressources et je vais tout compter. Et je vais vérifier que tu n'as rien perdu et que tu n'as pas dépensé ce que je n'ai pas dit que tu veux faire. OK? En anglais, on dit micromanagement. C'est vraiment gérer les choses à la petite centime. Ça, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. Ça arrive, hein? Mais ça ne devrait pas arriver. Donc, pourquoi? Parce que l'homme, il a son travail et il a la société. Il a plein de choses à gérer. Donc, il sous-traite tout ce qui est domestique, les enfants et les affaires de la maison. Il sous-traite donc l'autorité à sa femme pour qu'elle gère les choses dans ces domaines-là. Rappelez-vous que je parle de le foyer ou la famille idéale. Je ne dis pas que ça existe. Mais c'est idéal, c'est ce qu'on voudrait de nos vies. D'accord? Donc c'est comme ça. L'homme est l'autorité du foyer. Ça se divise un peu comme vous voyez, la femme, les ouvriers, la société. Donc si l'homme libre était patron, il avait des ouvriers, il avait des ouvriers dans l'atelier, il avait d'autres ouvriers dans les champs. Hein? Donc il y a plein d'hommes et de femmes qui était dans le domaine du travail, en dehors de la maison, que l'homme gérait. Et puis la société, c'est quand l'homme libre était assis dans la porte de la ville pour traiter les questions de la ville et de la justice et tout ça. Okay? Donc il y a toutes ces choses. Et puis la femme, donc c'est elle qui s'occupe globalement des enfants. Ce n'est pas pour dire que l'homme n'a pas quelque chose envers les enfants, mais c'est souvent, c'est la femme qui a un premier contact avec les enfants. Et il faut qu'elle et lui soient d'accord. On va parler des enfants la semaine prochaine, d'accord? Mais il n'y a pas de conflit entre monsieur et madame. Il y a un accord. Et l'homme, l'autorité, donne l'autorité à la femme pour discipliner les enfants. OK? Bon, ça, à chaque foyer, de gérer comment ça fonctionne. Les domestiques, bon, vous savez bien, vous avez les électroménagère pour vos domestiques. Hein, sauf si vous êtes très riche et vous avez des vrais domestiques, n'est-ce pas? Mais dans l'Antiquité, les esclaves étaient les électroménagères que nous avons aujourd'hui. Okay? Donc nous, on a supprimé la partie humaine. Hein, on a plein de robots chez nous. Et puis, toutes les affaires de la maison. Donc vous savez bien que la dame parfaite dans Proverbe chapitre 31, elle a toute une entreprise, elle a son usine à elle, elle fait plein de choses dans cette affaire de la maison. Okay? Donc, ce n'est pas, voilà, on va oppresser la femme, mais il y a simplement question d'autorité et ordre là. Okay? Donc, je vais relire le verset 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Comme je viens de dire, toutes les personnes, les enfants, les femmes, les hommes, sont tous soumis à des autorités supérieures. Jésus a été soumis à son Père. Alors si Jésus était soumis, on ne va pas dire, oh, mais ce n'était pas juste, c'était pas, c'est, qu'est-ce que c'est ça? Ben non, c'est normal. Le Père est au-dessous, en autorité. Le Père est l'autorité suprême. Le Fils obéissait à son Père et nous obéissons à Jésus. N'est-ce pas? Nous devons tous nous soumettre aux autorités supérieures. Le problème, c'est que nous vivons dans une génération rebelle. C'est ça le problème. On ne connaît plus comment se soumettre. Il y a plein de monde qui sont rebelles. Nous aussi, probablement. Dans les choses qui nous entourent dans la vie. Et Dieu veut qu'on soit soumis. Dieu aime la bienséance et l'ordre. Et c'est Dieu qui établit l'ordre dans la famille idéale, la famille libre. Par contre, donc, je vais vous lire un verset dans l'Épître aux Romains. « Donc c'est la suite de l'autre, je lis la première partie, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal... Non, c'est pas ce verset, excusez-moi. Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et puis le prochain verset dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, qui se rebelle, comme Adam et Ève, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Quand les enfants sont désobéissants, il faut les discipliner. N'est-ce pas? Quand vous êtes au travail et puis vous ne faites pas ce que vous devez faire, eh ben on va vous discipliner. Oh ben non, je pensais prendre 3-4 heures de repos, j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Ah ben là, je ne te paye pas pour travailler, pour reposer, je te paye pour faire du travail. Hein? Donc il y a toujours l'autorité, et ceux qui se rebellent, ceux qui résistent, ont des sanctions. C'est comme ça. Donc en parlant du mariage, c'est ça, je voulais lire cet autre verset. Donc, dans Hébreux, nous lisons que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souilleur, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, quand on tourne le verset à l'inverse, ça dit, puisque Dieu condamne l'immoralité, les chrétiens doivent honorer le mariage. Ok? C'est pas que nous devons vivre comme des chrétiens parce qu'on a peur que Dieu va nous condamner. C'est pas ce que le verset dit. Le verset dit que Dieu condamne. Il y a plein de choses que Dieu condamne. Et puisque Dieu les condamne, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on ne le fait pas. Parce qu'on est chrétien. Et c'est la même chose là. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, puisque ça déplaît à Dieu, ça attire sa condamnation, nous, on vit autrement. Nous honorons le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage est honorable. Il est dit, le mariage soit honoré de tous. Le mariage est honorable. Donc le mariage était envisagé par Dieu. Le mariage est, comme je viens de dire, honorable et doit être honoré. Nous devons honorer donc notre propre mariage et nous devons honorer, respecter le mariage des autres. Et je vais dire dans notre contexte du 20e siècle, 21e siècle, que nous devons encourager le mariage. Donc je remplis quelques papiers, donc il y a plein de possibilités. Dans la légalité de la France, il y a le mariage, il y a le divorce, il y a le pax et le concubinage. Et il y a les droits dans tous ces domaines-là. Et bon, ça c'est la France, mais c'est pas la Bible. La Bible n'honore que le mariage. Donc ces autres choses existent dans la loi française. Mais ça ne veut pas dire que nous, on a le droit à faire tout ce que fait le monde. Le monde, c'est le monde. Le monde n'est pas le christianisme biblique. Donc, dans le mariage idéal, on va se marier et on va respecter son propre mariage, la limite, et puis on ne va pas avoir un manque de respect envers les autres personnes qui sont mariées. Donc, l'intention de Dieu depuis la création, selon Jésus, c'est que les hommes et les femmes se marient et que le mariage est indissoluble. C'est permanent. C'est ça que Dieu avait à l'esprit. Donc, quand on parle de mariage, on parle d'une union légitime. Donc, en France, voilà, on se marie à la mairie. C'est une union légitime. légal. Si vous ne passez pas par un mari et vous allez à l'église vous marier, eh bien, vous n'êtes pas marié dans ce pays. Parce que ce n'est pas légitime. Donc, on parle d'une union légitime qui est reconnue et respectée et devrait être permanente entre un homme et une femme. Donc, l'idéal, c'est qu'il y a de l'entraide, hein, homme et femme. Dieu a dit, je vais faire une aide qui corresponde aux besoins de l'homme pour que les deux ensemble font un couple fonctionnel. C'est ça l'idéal, d'accord? Et donc, cette union devrait faire, si on a bien choisi son conjoint, conjointe, une union équilibrée. Alors aussi, il y a une confiance dans le couple, comme les êtres humains doivent avoir confiance dans le Père Céleste, eh bien, on doit avoir une confiance qui règne entre le couple. Il y a de la reproduction, donc je voudrais parler un tout petit peu de ça. Donc, je parle de la sexualité et la sensualité. Donc, la religion biblique, la religion véritable, est favorable à la sexualité. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur. Dieu a créé l'homme et la femme. Et le premier ordre que la Bible donne à l'homme et la femme, c'est pratiquer votre sexualité. C'est le premier ordre. Dieu dit, soyez fécondes, multipliez. C'était chapitre 2. Genèse chapitre 2, c'est avant le péché que Dieu a dit ça. Et Dieu a prévu un usage légitime de notre sexualité, c'est le mariage. Toutes ces questions de moralité reviennent à la personne de Dieu. Dieu est la base de toutes nos mœurs, de toute notre moralité, parce que Dieu est saint. Et puis, avec la sexualité, Dieu a attaché ce qu'on appelle donc la sensualité. La sensualité fait référence au plaisir qui accompagne la sexualité. La sensualité a sa place dans le couple, d'accord? Donc, le couple doivent, les époux doivent satisfaire les besoins l'un et l'autre. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 7 qui en parle de ça, versets 2 à 5. Par contre, quand la sensualité n'est pas méprisée, donc là, ça pousse à des déviations sexuelles, plein de péchés et puis de crimes, hein, qui on lit dans les informations diverses, vraiment des mauvaises choses qui arrivent, parce que les gens, surtout les hommes, n'ont pas méprisé la manifestation de leur sensualité. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose qui nous touche. Malheureusement, nous les hommes et nous les femmes, eh bien, si on ne marche pas avec Dieu, si Jésus n'est pas le centre, la parole n'est pas le centre, eh bien, si on marche dans la chair, eh bien, on peut faire n'importe quelle bêtise et méchanceté. Et je ne vous le souhaite pas. Aussi, dans la question de santé, Dieu a prévu le couple parce que quand on a les relations sexuelles dans le mariage, eh bien, ces relations sont saines et ne risquent pas de communiquer des maladies. Aussi, nos relations sont humaines et non pas animales. Donc, on n'agit pas comme des animaux. Et dans le couple, il y a aussi une certaine protection sociale dans le couple. Est-ce que je voulais dire autre chose là? Non. Donc, je voudrais regarder verset Colossiens, donc 3, verset 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Donc là, on parle encore des relations hommes-femmes. Et le fait, c'est qu'ils sont toujours difficiles. Donc on pense homme-femme, on pense amour. Mais on pense tout de suite difficulté, conflit. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme bien différents. Ce n'était pas la peine pour que Dieu fasse deux hommes, parce que Dieu a fait homme déjà, et homme avait quelques lacunes. Tous n'étaient pas parfaits. Donc, il fallait faire la femme pour compléter. Donc, la différence dans cette complété-là, la différence, on est globalement, on est pareil pour la globalité. Disons 3 sur 5. Mais c'est les autres parts qui causent des conflits et les différences. Les grands sujets, c'est l'éducation des enfants. Madame dit oui, monsieur dit non. L'argent, monsieur dit dépendre, dépenser, madame dit épargner. Ça, c'est nous. Et le temps. Question de communion. La femme veut du temps quand monsieur parle avec lui parce qu'elle a passé toute la journée à parler avec les enfants et sa tête est un peu tordue par toute cette conversation enfantine. Et lui dit, oh, je suis fatigué, je voudrais faire rien du tout et je vais dans mon grotte, être toute seule. Ou même dans la question de sexualité aussi, ça fait partie du temps qu'on consacre l'un à l'autre. Ça, c'est les grands points de différence, conflits qui arrivent très souvent dans les mariages. Eh bien, l'homme, il doit apprendre à bien diriger sa famille. Il doit aimer sa femme. Donc, aimer sa femme, j'ai parlé de ça l'autre jour dans l'étude biblique, aimer, c'est faire le bien. Quand il donne ce commandement aux hommes, il dit « faire du bien à ta femme ». Il n'a pas dit « taper ta femme » ou « opprimer, oppresser ta femme ». Il dit « faire du bien ». Et dans le sens qu'ils peuvent avoir des conflits, n'est-ce pas, parce que c'est sûr, eh bien, même Jésus a dit « à vos ennemis, vous devez remplir le besoin. Il y a soif, vous donnez à boire, il y a faim, vous donnez à manger. Eh bien, votre femme aura des besoins. » Et c'est à monsieur de veiller à ce que les besoins sont remplis. Et ne s'aigrisse pas contre elle. Donc ce mot-là, c'est ne s'irritez pas contre elle. Qu'il n'y ait pas d'animosité ou d'amertume entre vous. Alors pourquoi? Ben déjà parce que c'est l'homme qui est le chef. Ah ben il est au volant de la voiture. Il fait comme ça. Il tourne le volant à droite et la voiture tourne à droite. Ah ben non, pourquoi tu ne vas pas à gauche? Ben c'est lui qui dirige. S'il dirige sa femme dans cette direction et elle obéit, qu'elle suit. Mais pourquoi c'est glissé qu'elle est comme ça? Il faut avoir un peu de sagesse. Si vous voulez que votre femme va vers la gauche, ben, il faut savoir tourner le volant vers la gauche ou vers la droite, comme vous souhaitez que ça marche. Je ne parle pas de force, mais je parle de sagesse dans la vie, d'influencer et de faire changer de direction. Okay? Donc, il ne devrait pas avoir d'irritation, d'amertume, d'agressivité de l'homme envers sa femme. Et donc, vous savez bien, la femme doit respecter son mari. Il n'y a pas de commande que la dame doit aimer son mari. Mais il y a une commande que l'homme doit aimer sa femme. Il doit aimer, elle doit respecter. Il doit être respectable pour être respecté. Attention, elle lui doit le respect, mais ce serait bien s'il est respectable, hein, qu'il mérite cet respect. Donc, les hommes, je mets tout sur vous aujourd'hui. Hein? Donc, je voudrais, pour quelques minutes, donc, regarder. Simplement, je vais lire Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, ce qui concerne l'Église, nos relations dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Mais, puisque les chrétiens font partie de l'Église, et les hommes et les femmes chrétiens sont partie de l'Église, ça devrait s'appliquer aussi à nous en tant que couple. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Donc, je souligne quelques mots. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour, la paix. Ça devrait fonctionner dans l'Église, ça devrait fonctionner dans nos couples. Donc, pour être négative, il y a des interdictions nécessaires pour réussir une vie de couple. Toute expression de la méchanceté doit être interdite. Égoïsme doit être interdit. C'est pas à dire, voilà, j'en ai marre d'elle, je vais faire ce que je veux faire. Ça, c'est l'égoïsme. Hein? Ça doit pas exister. La colère, les critiques, surtout les critiques négatives, je veux dire. Et puis les contrôles abusifs ou inordonnés. Plutôt, il faut être un peu aveugle sur les imperfections de l'autre. Parce qu'on a tous nos imperfections. OK? C'est sûr. Des gestes agressifs, le divorce, des paroles dénigrantes, violentes, ce qui blesse l'âme. Ces choses ne devraient pas exister dans nos couples. OK? Mais du côté positif, les choses nécessaires, importantes pour réussir votre vie de couple, donc déjà, c'est bien de partager la foi. Hein? Vous êtes déjà bien parti si vous avez la même foi. S'il y a un musulman et un chrétien, eh bien déjà, vous avez un conflit permanent dans le couple. Donc, à éviter d'avoir une foi différente que votre conjoint. Aimer, donc dans les trois sens, aimer dans le sens d'exprimer la bonté, l'amitié et la sensualité. Donc, agapé, philos et eros. Donc, le mot eros n'est pas dans la Bible, mais ça existe dans les Grecs. Ça, c'est le côté sensuel. Respecter ou honorer. Il faut bien plus que simplement tolérer votre conjoint. OK? Respecter. Il y a des différences. On a droit à des différences d'opinion. Et je vais vous dire, si le monsieur n'avait pas besoin de l'aide, qui va certainement donner son conseil, son opinion, Dieu n'aurait pas fait la femme. Il a fait la femme parce qu'il faut deux opinions pour avoir un accord. Si on avait toujours la même opinion, il n'y a pas besoin de discuter. Monsieur fera tout ce qu'il veut parce qu'il sait qu'elle va suivre. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les mêmes opinions. Mais ce n'est pas la réalité. Elle a ses opinions, il a ses opinions, on s'entend et puis on prend ensemble une décision. Sous l'autorité, bien sûr, de celui qui sera responsable. Donc, vous savez bien, j'ai déjà dit ça, mais une fois, on est sur l'autoroute, il y a une bifurcation. Ah, Sophie, je prends quel côté? Elle regarde le plan. Je pense que c'est à gauche. Donc, qui est au volant? C'est moi. Je tourne vers la gauche. Foum! Oh, c'était à droite. C'était sa faute? Non, c'était ma faute. J'aurais dû avoir la connaissance de dire, oh non, c'est pas un bon choix, on va... C'était pas sa faute, il fallait pas la condamner. C'est moi qui ai tourné le volant à gauche. Il faut s'entendre, il faut pardonner, il faut reconnaître vos torts. Hein? Donc, confesser et puis repentir et soyez humble. Okay? Il faut communiquer. Donc, quelque chose là-bas qui parle de comment discuter, le dialogue ensemble. Une certaine douceur dans les paroles et les gestes de tendresse, et puis la maîtrise de soi. Ce sont des choses dont on a besoin pour qu'on arrive à gérer, à réussir nos couples. Attends, je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait les petits paquets, j'en ai que 7, mais... je peux faire, parce que là c'est le couple, la semaine prochaine c'est la famille. Donc vous pouvez prendre ça une partie pour la famille avec les proverbes et tout ça. Il y a des autres choses là. Donc 10 règles d'or du dialogue que j'ai trouvé dans le cahier réussir sa vie de couple. Donc voilà, vous pouvez prendre ça et s'il n'y a pas suffisamment, j'aurai plus pour la semaine prochaine. Donc pour donner un petit résumé, Jésus veut être au centre de nos vies. Un peu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le couple chrétien devrait fonctionner selon la bienséance et l'ordre. Il y a l'autorité, il y a un ordre, il y a une hiérarchie. L'homme doit apprendre à bien diriger sa famille et la femme doit trouver sa place de participation dans le bon fonctionnement du couple et de la famille. Et puis, à retenir, Dieu apprécie le couple bien ordonné. C'est un Dieu d'ordre. Donc, nos vies devraient correspondre à ça. Quand... Oh, j'ai oublié mon petit dessin là. Il donne 2 secondes de plus. Donc, on avait les 2 personnes qui ont toutes leurs relations extérieures avant le mariage. Et puis, on se marie et le couple devient uni. Et ils ont toutes les relations, mais toutes les relations sont maintenant non plus comme 2 personnes indépendantes, mais un couple. Okay? Donc ça veut dire que nos vies ont entièrement changé. Il y a plein d'adaptations à faire. Voilà.